Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'émission Cinérama de ce mercredi 26 mai. Émission évidemment consacrée au cinéma, présentée par Martin et moi-même. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors tu n'étais pas à Cannes, je n'y étais pas. Donc on a vu peu de films finalement, sauf ceux, en ce qui me concerne, ceux qui sont sortis à Cannes, c'est-à-dire le Abbas Kiarostami avec copie conforme et puis le Jean-Luc Godard film Socialisme, dont je ferai deux chroniques, et toi donc tu vas continuer avec...
Voilà, je vais continuer mon exploration de la filmographie de Ridley Scott que j'avais entamée la semaine dernière, et donc un peu plus tard dans l'émission, je profiterai de la sortie en salle de Prince of Persia pour vous proposer un petit blind test des films adaptés de jeux vidéo.
Voilà, donc les auditeurs, vous pourrez jouer avec l'aide d'Internet ou pas. Est-ce qu'ils ont suffisamment de temps pour rechercher d'ailleurs sur Internet quels films ont été adaptés?
Ça va être très très difficile de toute façon, mais voilà, vous pourrez essayer. Hein.
Alors il y aura du son aussi dans Cinérama, alors les habituelles bandes annonces ou extraits des films qu'on chronique éventuellement. Et puis aussi un petit montage que j'ai préparé donc autour du film qui a été Palme d'Or, Oncle Bonmi de Happy Chat Pong, Where Is It Cool, donc réalisateur thaïlandais. Et puis eh bien, je me suis servi aussi du prix du jury, du film prix du jury, le film de Xavier Beauvois, et je me suis servi de Pierre Murat qui est critique à Télérama, qui lui a apprécié le film, et puis de Eric Neuhoff qui lui est critique au Figaro et qui a détesté le film. Voilà, donc ce sera un petit montage en tout début d'émission, et puis en fin d'émission on pourra écouter eh bien, le florilège de critiques de trois critiques du Figaro qui ont balancé comme ça sur YouTube le top 5 des nanars de Cannes, avec des arguments un peu trop simplistes à mon sens. Donc eh bien, on vous fera écouter cela, mais ça ce sera en toute fin d'émission pour ensuite passer à autre chose. Et c'est à toi.
Et on va donc commencer avec Ridley Scott. Donc la semaine dernière, j'avais entamé un parcours de l'œuvre de ce réalisateur britannique qui a commencé sa carrière avec fracas en accouchant de deux véritables chefs-d'œuvre du 7e art, Alien en 1979 et Blade Runner en 1982. Alors après ces deux coups de maître, Scott a laissé tomber la science-fiction pour s'essayer à des genres très différents, le polar, le film historique, qu'il avait d'ailleurs déjà abordé avec son premier long-métrage, Les Duellistes, le road movie, le péplum, le film de guerre, d'espionnage ou de gangster. Et malgré cette diversité, le réalisateur est revenu régulièrement aux films d'aventure historique avec 1492 Christophe Colomb, Gladiator, Kingdom of Heaven et enfin Robin des Bois, ce qui m'avait fait dire la semaine dernière qu'on pouvait quand même conclure un certain goût pour l'épopée, pour l'aventure épique, la légende de sa part. Alors dans la première partie de ce survol, je m'étais intéressé aux films qui s'ancraient soit dans le futur avec ces deux films de SF, soit dans le passé plus ou moins lointain. Et aujourd'hui, je me propose de revenir rapidement sur les films plus 20e siècle de Ridley Scott. Alors après l'échec de Légende en 1985, le réalisateur va délaisser un peu la science-fiction et la veine fantastique pour mettre en scène plusieurs films réalistes, moins ambitieux, afin de rebondir et de prouver qu'il n'est pas qu'un spécialiste des films commerciaux à gros budget. Donc en 1987, il réalise Traqué, un film noir qui mêle enquête policière et romance, donc avec Tom Béranger et Mimi Rogers dans les rôles principaux. Deux ans plus tard, le réalisateur enchaîne avec Black Rain, donc une série B assez honnête mais complètement oubliable qui se déroule au Japon avec Michael Douglas et Andy Garcia, soit deux films mineurs qui ne rencontrent qu'un succès mitigé au box-office, Black Rain étant malgré tout un peu mieux reçu par le public et par la critique grâce à son casting. Mais bon, il faudra attendre 1991 et Thelma et Louise pour que Ridley Scott réalise un film un peu plus complexe, un peu plus intéressant, et par conséquent, qu'il rencontre à nouveau un véritable succès public.
Les JV !
Allô ?
Salut ! Alors ça va à la fin de mon foyer ? T'es prête ? On part en virée ce soir.
Pas si vite, j'ai toujours pas demandé si je peux aller.
C'est pas vrai, t'as pas encore demandé ? Tellement merde que j'arrive.
Est-ce que c'est ton mari ou ton père, hein? Tu t'en vas 2 jours, fais pas une affaire, fais pas l'enfant. Dis que tu pars avec moi. Dis que c'est pour moi que je suis au bord de la craque. Ça fera pas le poids avec lui, déjà qu'il te prend pour une barge. T'es au boulot?
Non, je t'appelle de chez Playboy.
Je te rappelle.
Alors Thelma et Louise racontent le périple de 2 amis qui décident de fuir pour un week-end leur petite vie étriquée de femme au foyer et de serveuse. Alors malheureusement, quand elles s'arrêtent dans un bar pour fêter leur petite escapade, elles rencontrent un homme qui va tenter de violer Thelma. Louise intervient et abat l'agresseur, et ce qui devait être un week-end de détente devient dès lors une fuite en avant à travers plusieurs états pour échapper à la police. Alors Thelma et Louise se construisent autour d'un scénario original pour l'époque, puisqu'il est centré sur les 2 héroïnes, alors que jusque-là, les films hollywoodiens, et en particulier les buddy movies, n'accordaient aux femmes qu'une place secondaire. Ici, l'importance des rôles en fonction du genre est bouleversée. Donc Ridley Scott récidive avec des personnages principaux féminins, après avoir donné le premier rôle d'Alien à Sigourney Weaver, un rôle qui était d'ailleurs écrit à l'origine pour un homme. Et quelques années plus tard, il réalisera un autre film, G.I. Jane, dans lequel une jeune femme campée par Demi Moore lutte pour gravir les échelons dans l'univers ultra-sexiste de l'armée américaine. Donc film féministe, Thelma et Louise parlent d'émancipation, de liberté, mais aussi de la violence sexuelle et de l'organisation patriarcale de la société américaine. Et ce road movie permet à Ridley Scott de ridiculiser quelques personnages masculins bien crétins.
Où tu vas ?
À Fresno !
On te voit partout où on va. Et si tu enlevais tes lunettes, qu'on voit tes yeux 2 secondes ?
Moi, je vous vois sans arrêt aussi.
Eh ben, nous, on trouve que t'es mal élevé. T'arrives à t'en sortir en te conduisant comme ça avec des femmes que tu n'as jamais vues ? Hein ? Hein ? Et si on faisait la même chose à ta mère ? Ou à ta sœur ? Ou à ta femme ?
Hein ? Mais qu'est-ce que t'as, toi, tu débloques ?
Non, tu sais très bien de quoi je veux parler. Cette espèce de truc que tu fais avec ta langue, ça veut dire quoi ? C'est dégueulasse. Et cette façon de montrer ton entrejambe, franchement, qu'est-ce que ça veut dire, ce machin, juste, hein ? Ça veut dire, gare-toi, tu vas voir quel vieux porc il est, le bonhomme ?
Où est-ce que tu penses, suce-moi, connasse ?
Les bonnes femmes sont cinglées.
T'as tout compris. Hein ?
N'empêche qu'il faut t'excuser.
Alors là, vous pouvez vous chier dans les doigts !
Dis-nous que tu regrettes tout.
Branle-toi !
Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te le faire regretter.
Oh, mais c'est pas vrai.
T'as même dû nous traiter de pétasse sur ta CB, hein, que t'as dit ça?
Ouais, j'ai dit ça.
Je déteste. J'aime pas qu'on nous traite de pétasse, et toi?
Tu nous les fais, ces excuses, ou pas?
Va te faire foutre!
Alors le film évite malgré tout la simplification et réserve aussi quelques jolis rôles aux hommes, en particulier pour Harvey Keitel et Michael Madsen, donc dans les rôles respectifs du policier qui court après Thelma et Louise, et du petit ami de Louise. Donc avec ses 2 copines attachantes et sa fin tragique, Thelma et Louise cartonnent auprès du public et déclenchent un véritable phénomène de société. Les mouvements féministes s'en emparent, ainsi que les mouvements lesbiens. Mais Ridley Scott ne s'attire pas que des amis avec ce film, et la violence dont font preuve Thelma et Louise tout au long de l'histoire fait réagir la critique puritaine. Donc malgré ces quelques échos négatifs, Thelma et Louise permet à Scott de reconquérir les spectateurs et la plupart des critiques. Un retour en grâce qui n'empêchera pas ses 3 films suivants de faire des flops. Donc de façon assez cocasse, après le naufrage financier de 1492, Ridley Scott réalise un film sur le naufrage d'un bateau-école. Donc adapté d'un roman, lui-même inspiré par un véritable fait divers, L'âme de fond est un nouvel échec public pour le réalisateur, malgré une réception critique plutôt bonne. Et son film suivant, G.I. Jane, ne fera pas remonter sa cote et parviendra à peine à se rentabiliser, malgré la présence de Demi Moore et de Viggo Mortensen au casting. Alors en 1995, Ridley Scott a fondé avec son frère Tony la société Scott Free Production, et tous ses films suivants seront produits sous cette bannière, c'est déjà le cas de L'âme de fond et de G.I. Jane. Mais le premier vrai succès de Ridley Scott en tant que producteur-réalisateur, ce sera avec Gladiator en 2000, qui récolte plus de 450 millions de dollars à travers le monde pour une mise 4 fois moindre. Alors à partir de ce film, Scott remonte la pente et il va réaliser 2 films d'affilée qui sortiront tous 2 en 2001. Donc il s'attaque d'abord à la suite du Silence des Agneaux, le film de Jonathan Demme sorti en 91, et offre à Anthony Hopkins de reprendre un des rôles les plus marquants de sa carrière, celui du professeur Lecter, créé par Thomas Harris dans sa série de romans. Alors Hannibal connaîtra une production difficile, Le livre de Harris rebutant plusieurs réalisateurs à qui le projet est proposé à cause de son côté gore et immoral. Et finalement, c'est Dino De Laurentiis qui ira lui-même trouver Ridley Scott sur le tournage de Gladiator pour lui parler du projet. Donc le réalisateur acceptera de tourner Hannibal et en profitera pour donner la part belle au personnage titre. Et face à l'acteur, un nouveau monstre devait succéder au Dragon Rouge et au Buffalo Bill des deux précédents opus. Donc il ne s'agira pas pour une fois d'un tueur en série, mais d'une ancienne victime du cannibale, Mason Verger, que Gary Oldman va interpréter sous un maquillage repoussant qui nécessitait chaque jour plusieurs heures de pause. Alors après le désistement de Jodie Foster, longtemps attachée au projet, c'est finalement Julianne Moore qui reprend le rôle de Clarice Sterling. Et au final, Hannibal s'avère moins efficace que le film de Jonathan Demme, malgré son casting, sa photographie somptueuse et un certain côté baroque donc dans la mise en scène. La faute sans doute à Ridley Scott qui abuse un petit peu des effets de style et qui nous propose une atmosphère finalement moins poisseuse et moins oppressante que ne l'était celle du Silence des Agneaux.
Ça vous rappelle peut-être vos cours de biologie, docteur. Non ? Voici quelles sont ses plus remarquables caractéristiques. Ça va probablement vous rafraîchir la mémoire. Trois paires d'incisives, une paire de canines très allongées, trois paires de molaires, quatre paires de prémolaires, supérieure et inférieure, pour un total de 44 dents. Le repas débutera par un hors-d'œuvre tartare. Vos pieds. Le plat de résistance, le reste de votre personne sera servi 7 heures plus tard. Mais en attendant le trépas, vous pourrez enfin savoir ce que ça fait de devenir un simple amuse-gueule, perdant goutte à goutte sa liqueur saline écorcée. Vous devez sûrement regretter de ne pas m'avoir jeté tout entier au chien.
Non, Mason. Non, je vous préfère de loin comme ça.
Alors, dîner à 8 heures.
Après Hannibal, Ridley Scott se lance dans l'adaptation du livre Black Hawk Down, Story of Modern War, de Mark Bowden, qui retrace la bataille de Mogadiscio en Somalie les 3 et 4 octobre 1993. Alors première confrontation pour le réalisateur avec une actualité encore brûlante, La chute du Faucon Noir est un film de guerre orienté action qui nous raconte comment une opération de l'armée américaine qui devait se dérouler sans accroc débouchera sur un véritable massacre. Donc porté par un casting de stars qui n'est pas sans rappeler celui composé par Terrence Malick pour La Ligne Rouge, le film compte dans ses rangs Ewan McGregor, Josh Hartnett, Tom Sizemore, Eric Bana, Orlando Bloom et même Sam Shepard. Donc salué pour sa mise en scène et ses séquences d'action, La chute du Faucon Noir sera rapidement décriée à cause de son traitement un peu manichéen de ce sujet sensible, certains critiques criant même au film de propagande pro-américain. Et bon, la présence à la production de Jerry Bruckheimer, qui avait déjà sévi à l'époque sur Top Gun, USS Alabama, ainsi qu'Armageddon, n'est peut-être pas étrangère à certains de ses reproches. Alors on va faire une petite pause avant de revenir un peu plus tard pour en finir avec Ridley Scott.
Alors tu n'as pas parlé de Brad Pitt hein, qui avait plus ou moins débuté je crois dans Thelma et Louise.
C'est son premier rôle, voilà, premier rôle un peu important à Hollywood. Voilà, sur Thelma et Louise, où il joue le rôle d'un petit voleur qui rencontre justement les deux héroïnes et qui se lie surtout avec Thelma. Voilà, donc, mais c'est un des personnages masculins, voilà, qui n'est pas si répugnant, parce qu'il y en a plusieurs quand même qui sont assez corsés.
Oui, c'est le bel amant.
C'est le bel amant qui les arnaque dans la... quand même.
Oui, mais bon. Elles ont passé un bon moment. Enfin, elle a passé un bon moment, tellement. Alors, nous allons faire une petite pause avec un montage donc qui va célébrer cette Palme d'Or hein, qui a été décernée ce dimanche à Pichapong, Where Are They Cool. Pour le film Long Bonne Mie, donc ce qui veut dire Oncle Bonne Mie, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Alors je me suis servi pour ce montage du film de Xavier Beauvois, Des Hommes et des Yeux, de la bande-annonce de Oncle Bonne Mie, des paroles de Eric Neuhoff, donc, qui est critique au Figaro, de Pierre Murat, qui est critique à Télérama, d'une petite émission d'Arte, et puis aussi eh bien, des VRP.
This year's Pomodoro goes to...
Je trouve qu'il est prématuré de décider.
Uncle Bonnie, who can recall past lives by the pentagon, where is second?
La Palme d'Or de cette année va Uncle Bonnie de Happy Chapong vers Azeta Cool.
I'm a Penyang.
Le beau film thaïlandais.
Le film est interminable.
I'm a Tayo.
Oncle Bunmi d'Happy Chapong.
D'Happy Chapong vers Azeta Cool.
Oncle Bunmi d'Happy Chapong.
Plein de visions inintéressantes.
Oncle Bunmi d'Happy
Chapong. Oncle Bunmi d'Happy Chapong.
Oncle Bunmi d'Happy Chapong vers Azeta Cool.
Le beau film thaïlandais.
Tiens, c'est vrai.
Et la Palme d'Or de ce 63e festival de Cannes. Palme d'Or.
This year's Palme d'Or.
Oncle Bunmi d'Happy Chapong. Palme d'Or.
Ah bon, ça va.
Happy Chapong vers Azeta Cool. Alors certains disent Happy Chapeau vers Azeta Cool. Et...
Oncle Bonnemé qui se souvient de ses vies antérieures.
Je propose que chacun de nous se prononce sur un départ possible. Jean-Pierre.
Faut rester.
Le film est interminable.
Depuis quand on obéit aux armes ?
Paul. Je pense qu'il faut partir. Progressivement.
Le film est interminable.
Célestin.
Je suis malade, je veux partir.
La sommante agonie d'un paysan qui a le diabète et qui voit revenir tous les fantômes de son passé.
Luc.
Partir, c'est mourir.
T'as cru à mes yeux, là.
Je reste.
Michel.
Le film est interminable.
Personne ne m'attend nulle part. Je reste. Amédée.
On ne sait pas encore. Il faut réfléchir.
Le film est interminable.
Et prier ensemble.
Je pense qu'il faut partir.
On va à Cannes, on va à Cannes, se faire griller nos petites guibolles. On va à Cannes, on va à Cannes, se faire masser nos vieilles peaux molles.
Voilà, nous avons survolé un peu l'attitude face à cette Palme d'Or, hein, parce que une grosse partie de la presse a quand même apprécié ce choix qui est audacieux. Et puis, il y a une autre partie de la presse qui a en revanche pensé que c'était une grave erreur de décerner la palme à un film que beaucoup ont trouvé ennuyeux, long et sans aucun sens. Voilà. Mais on y reviendra en toute fin d'émission. Pour l'instant, on va passer à Copie Conforme. Dernier long métrage du réalisateur iranien qui était présenté à Cannes, donc en compétition officielle. Alors, si le film n'a pas été distingué, ni son réalisateur, en revanche, son actrice, la lumineuse Juliette Binoche, a reçu le prix d'interprétation. Alors, je n'ai pas vu les autres films de la sélection, mais je me dis que le jury de Monsieur Borton a eu bon goût. Je suis à peine étonné que Binoche ait remporté ce prix après un Oscar et des Césars, parce que ce film de Kiarostami, le premier qu'il tourne en dehors de l'Iran, ne cesse de s'occuper de ces deux personnages. Ils sont de tous les plans ou presque, parce que le réalisateur iranien, fidèle à son esthétique, nous gratifie de quelques plans-séquences où l'on traverse les champs de Toscane. Alors, que raconte Compique Conforme. James est un écrivain anglais quinquagénaire, un vieux beau qui donne en Italie, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, une conférence ayant pour thème les relations étroites porte entre l'original et la copie dans l'art. Alors il arrive en retard à sa conférence, tout comme une jeune femme, Juliette Binoche, qui donne au traducteur de James son numéro de téléphone parce qu'en plus d'arriver en retard, elle doit repartir aussi sec. Alors à cause de son fils impatient. Ils partent ensemble pour quelques heures dans un petit village près de Florence et nous suivons leur discussion sur l'original et la copie en art. Puis s'opère un glissement sur l'original et la copie en amour, puisqu'on les prend pour mari et femme. Et au final, le film pose aussi la relation entre la réalité et la fiction au cinéma. Alors c'est ici que le jeu des acteurs est primordial, car à mesure qu'ils discutent, qu'ils font connaissance, ils s'opèrent donc ce glissement et on en vient à se demander s'ils ne sont pas effectivement ensemble depuis longtemps et si le réalisateur ne nous a pas trompés depuis le début. Alors c'est un film très bavard où l'on peut à l'occasion réfléchir avec les personnages sur l'art, la copie, l'original, à savoir si Mona Lisa est l'original de la Joconde, auquel Da Vinci aurait ajouté un sourire et en aurait donc fait une copie. Alors il y a beaucoup de bavardage et le premier tiers du film est rassurant. On prend la voiture, on quitte la petite ville pour la campagne, un village pittoresque de Toscane, la lumière est belle, Kiarostami nous filme les personnages d'abord de face dans leur voiture, dans une très longue séquence formidable. Éclairé, mais faussement réel, et ensuite en champ contre champ. Le film est rythmé par divers lieux et diverses rencontres que le réalisateur nous filme en plan séquence, bien souvent, et d'une parfaite maîtrise. Alors j'ai juste parlé de glissement sur la relation qu'entretient ce faux couple. L'écrivain James doit prendre son train de 21h. Pour lui, cet après-midi, avec Juliette Binoche, c'est une récréation. Donc ça, c'est le premier tiers. Mais dans le deuxième tiers, on va au-delà de cela. Il s'agit de jouer un jeu. Et dans le dernier tiers, nous avons la crise et le dénouement. Et cette partie est un peu moins digeste, car moins frivole. Peut-être, et nourrit encore des réflexions. Mais pendant tous ces glissements, le jeu de Binoche est impeccable, si bien que nous, spectateurs, nous ne savons pas sur quel pied danser. Alors même si j'ai lu qu'on lui reprochait à Juliette Binoche d'illuminer son visage un peu trop souvent, le scénario l'exige d'une part, et cette actrice attire si bien la lumière qu'il serait dommage de s'en priver. William Schimmel, qui est avant tout un chanteur d'opéra, s'en tire très bien aussi, mais joue davantage dans la retenue, et paraît froid à côté d'une Binoche totalement investie dans son personnage, le façonnant pour arriver à une marionnette contrariée, intrépide et étonnamment sensible. Kiarostami a su capter ce visage comme la lumière de l'Italie. Copie conforme n'est certainement pas un chef-d'œuvre, mais un bon film que Juliette Binoche a réussi à faire passer comme un petit bonbon qui fond lentement dans la bouche. Voilà. Donc, ce qui veut aussi dire qu'il peut y avoir certaines longueurs, puisque c'est ça, j'ai l'impression, en ce moment. Quand on regarde un film au cinéma, il est toujours question de l'ennui, de la longueur des plans, et ainsi de suite. Donc effectivement, je pense que le Kiarostami peut poser quelques problèmes à certains spectateurs, mais en même temps, c'est ce que je disais, il nous prend par la main quand même Kiarostami, et puis tout cela est très 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 bien mis en scène, avec donc plan séquence, du son hors champ, du son dans le champ, du son qui vient parasiter un peu les personnages, enfin il y a un premier plan, un second plan, enfin c'est vraiment du cinéma et la bien bel ouvrage. Et c'est projeté au Diagonale.
Alors, on va rester d'une certaine façon à Cannes, puisque je le rappelle, Ridley Scott a fait l'ouverture du festival de cette année avec son Robin des Bois. Et donc, je vais en finir, donc je vais lui tordre le cou à ce réalisateur. Donc, pour ce faire, je vais passer rapidement sur Les Associés, donc un petit film d'arnaque avec Nicolas Cage et Sam Rockwell, qui se laisse gentiment regarder, mais qui n'a pas grand intérêt. Je vais aussi passer rapidement sur la petite escapade régionaliste et viticole Une Grande Année, tournée dans le Luberon, où le réalisateur possède un domaine, pour vous parler encore de deux films qui me semblent intéressants. Alors dans les deux cas, le rapprochement entre Ridley Scott et son frère, d'un point de vue professionnel, est assez flagrant. Donc le premier film, c'est American Gangster, que le réalisateur tourne en 2007. Et pour retracer le parcours criminel d'un des plus grands trafiquants d'héroïne des années 60, Frank Lucas, Ridley Scott fait se côtoyer à l'écran son égérie, Russell Crowe, donc depuis Gladiator, avec celle de son frère, Denzel Washington. Alors le premier campe Richie Roberts, un policier incorruptible qui va tout faire pour boucler le second. Donc American Gangster, c'est un peu le casino de Ridley Scott. Encore une fois, le metteur en scène va apporter un soin particulier à la reconstitution du New York des années 60 jusqu'à 70. Et le film bénéficie d'une photographie léchée qui restitue parfaitement celle des films réalisés à cette période, comme le French Connection de Friedkin ou le Bullet de Peter Yates. Alors dans les deux rôles principaux, Russell Crowe et Denzel Washington s'avèrent parfaitement convaincants avec leur charisme, mais également leur ambiguïté. Et cette ascension d'un petit malfrat jusqu'au sommet du crime organisé permet aussi à Ridley Scott de faire une parabole édifiante sur le capitalisme et sur les monopoles commerciaux, avec ce self-made man qui, grâce à des habiles jeux de pouvoir, parvient à surpasser tous ses concurrents et à accumuler fortune et renommée. Donc le scénario très bien construit nous tient en haleine pendant les 2h40 que dure le long métrage, et au final Scott accouche d'un grand film de gangster dans la tradition des Affranchis, de Scorsese, de Scarface, de De Palma ou de Blow, de Ted Dem.
Vous voulez bien sortir? J'ai à parler à Monsieur Ritchie. Allez, dépêchez-vous un peu, je vous perds l'heure par la minute. Merci. Vous n'avez pas de micro?
Non.
J'ai parlé de vous avec mes avocats. Il y a une chose qu'ils m'ont dite et que j'ai du mal à croire. Vous auriez trouvé près $1 million dans le coffre d'une voiture et vous l'auriez rendu. C'est vrai?
Oui.
Vous avez vraiment fait ça?
Mon ami.
Bravo. Vous savez qu'il n'a pas été perdu pour tout le monde.
Peut-être.
Non, il n'y a pas de peut-être, monsieur Ritchie, c'est certain. Vous leur avez apporté, ils l'ont pris, et vous, ils vous ont rien donné. Pourquoi vous avez fait ça?
C'est ce qu'il fallait faire.
Ah oui. Bonne réponse, c'est ce qu'il fallait faire. La question qui me vient à l'esprit, la question que je me pose, c'est est-ce que vous le referiez?
Je veux dire, c'est quand même de l'argent. Et depuis, avec une pension alimentaire à payer, les traites pour l'appartement. Donc, j'en suis venu à me dire que pour le savoir, j'allais vous poser la question. Vous me donnez une adresse, et je ferai en sorte que la voiture soit là et l'argent dans le coffre.
Non, merci.
Vous êtes sûr?
Allons, Ritchie, vous croyez m'impressionner peut-être, c'est ça? Vous croyez être meilleur qu'eux, mais vous êtes pareil que n'importe quel flic. En fait, vous êtes exactement comme eux. Vous êtes tous les mêmes. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous croyez que le fait de m'expédier derrière les barreaux changera quoi que ce soit à ce qui se passe dans la rue? Vous savez très bien que les toxicos sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à mourir. Vous pouvez m'envoyer en taule, ça changera rien du tout.
C'est comme ça.
C'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a en fin de compte? Vous et moi, assis là.
On a un petit fouille-merde, le chauffeur de mon frère. Vous avez un peu de poudre? Ça risque d'affaire un peu court, Ritchie.
Détention et trafic de stupéfiants. Association de malfaiteurs. Tentative de corruption. Meurtre de sang-froid. J'ai les numéros de vos comptes à l'étranger. Vos propriétés, vos affaires. Tout ça payé avec l'argent de l'héroïne. Et j'ai les parents de centaines de jeunes. Décédés d'overdose à cause de vous, c'est ça que je vais dire devant le jury, c'est ça que je plaiderai. Cet homme a tué des milliers de gens délibérément du haut de son somptueux appartement. À part ça, vous n'avez aucun souci à vous faire.
Oh, très bien. Mais c'est pour ça qu'on est là, justement. Parce que moi aussi, Ritchie, j'ai des témoins, des gens importants. Et j'ai Harlem, Ritchie. J'ai beaucoup aidé Harlem, et Harlem en fera autant pour moi, je vous prie de le croire.
J'ai beaucoup plus que ça, Franck.
Ah oui, quoi?
Si tous les gens prêts à témoigner à charge étaient convoqués le même jour, il y aurait la queue dans la rue et il faudrait des barrières.
Arrêtez vos conneries.
Vous avez fait beaucoup de tort à beaucoup de gens. La famille Mazzano, vous vous souvenez de cette bande?
Non.
Vous les avez mis sur la page.
J'ai rien à voir avec les Mazzano et les Mazzano n'ont rien à voir avec moi.
Au contraire, il y a un rapport.
Pourquoi ça?
Direct.
Pourquoi?
Parce qu'en plus d'une haine personnelle, ils n'aiment pas ce que vous représentez.
Je ne représente rien. Je ne suis que Frank Lucas.
Vous êtes sûr? Un homme d'affaires noir comme vous, vous représentez le progrès. Le genre de progrès qui risque de leur faire perdre énormément d'argent. Si vous disparaissez, tout redevient normal.
Alors le dernier film qui va m'intéresser ici, c'est Mensonges d'État, qui est sorti en 2008. Ce film nous raconte comment deux agents de la CIA essayent de mettre la main sur un chef terroriste, plus ou moins affilié à Al-Qaïda, qui est responsable d'une série d'attentats meurtriers en Europe. Alors l'un est un bureaucrate bouffi d'orgueil qui ne quitte son bureau en Virginie que pour aller tester son pouvoir et sa suprématie face à ses homologues jordaniens. Et l'autre est un agent de terrain, complètement immergé dans la situation, et qui risque sa vie jour après jour sans savoir si ses supérieurs le soutiennent ou se servent de lui pour arriver à leur fin personnelle. Donc pour cette deuxième plongée dans l'actualité géopolitique mondiale, Ridley Scott va hybrider d'une certaine façon deux films de son frère, Ennemi d'État et Spy Game. Donc au premier, il emprunte la verticalité de la mise en scène qui illustre parfaitement la technicité d'une guerre où il n'y a pas de véritable front ni de champ de bataille, si ce n'est à l'échelle planétaire. Et au second film, il va emprunter le duo d'agents secrets opposés qui doivent composer ensemble malgré leurs différences. Donc, Mensonge d'État, c'est un thriller technologique, géopolitique, qui nous plonge dans la situation particulièrement délicate du Moyen-Orient depuis le 11 septembre. Et même si Scott surfe sur la vague de la saga Jason Bourne, plutôt que de lorgner en direction de Syriana, son film s'avère une nouvelle fois assez prenant, avec quelques morceaux de bravoure impressionnants, comme cette scène de poursuite au début du film, mais aussi avec un discours politique qui pose la question de l'interventionnisme américain et des manipulations médiatiques.
Alors, ça va mon pote? Bien rentré du bac à sable? On apprécie la civilisation?
Oh putain.
Vous voulez qu'on se prenne un hot dog?
Comment voulez-vous que j'opère, hein? Si vous me cachez la moitié de vos cartes.
Ou alors une glace?
Tout ce que Hani me demandait, c'était de la patience. De la patience. Et pas comme qualité
lambda.
Je me
fiche de ce que Hani
pas
demandait.
Comme qualité lambda, mais comme condition requise. Et vous êtes un foutu de patienter. Vous avez trop soif de pouvoir. Vous êtes trop avide. Vous aviez foutu toute l'opération en l'air, putain de merde. J'ai cru que Hani allait me tuer.
Oh, n'exagérez pas. Hani va pas vous tuer. Il vous aime bien. Il vous aime beaucoup. Et qui on pourrait lui envoyer qui lui conviendrait mieux que vous? Personne. N'oubliez pas, allez, vous retournerez en Jordanie en un rien de temps. Vous retrouverez votre petite bouquère jordanienne que vous croyez que j'ai pas vue, mais que j'ai vue.
Vous n'êtes vraiment qu'un gros tas de merde, vous le savez, Ed. Ce qu'on fait, c'est un métier, faites un régime, putain. Merde.
Ça y est, vous avez fini? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas le temps de jouer. Patience, c'est dit, patience, et de rester assis à bouffer du couscous. Les intérêts de Hani ne s'étendent qu'à son propre petit royaume. Les miens sont globaux. Cela dit, j'admets qu'il est possible que peut-être j'aurais dû, d'un point de vue purement opérationnel, vous informer de ce que je faisais.
Exact. Ce que vous auriez dû faire, c'est commencer par écouter ce que disait Hani, vous le savez.
Ce que je sais, c'est qu'il y a 10 ans, je vous aurais massacré.
Vous auriez dû saisir l'occasion quand vous la teniez.
J'aurais peut-être dû. Là, je peux plus. Ce qu'il faut qu'on fasse, avec ou sans la coopération de Hani, c'est introduire un homme à nous dans la tente d'Al-Salim. On pourrait infiltrer toutes les foutues mosquées salafis du monde, mais ne pas avancer d'un pouce.
Ouais. Mais Al-Salim ne peut pas le savoir.
Quoi?
Bah, il peut pas le savoir. Il a... Il sait pas quand on n'y arrive pas. Il ne sait pas si on est proche ou loin de lui. Il sait pas ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Tenez. Oussama a livré Zarqawi aux chiens parce qu'il devenait trop puissant, pas vrai?
Oui.
Et si au lieu de traquer Al-Salim dans le monde entier comme on fait maintenant sans jamais avoir le moindre résultat, on faisait comme si il y avait une organisation terroriste parallèle inconnue qui soit aussi efficace que la sienne, d'après vous? Comment Al-Salim réagirait à une remise en jeu de son titre? Qu'est-ce qu'il ferait?
Oh, il deviendrait paranoïaque. Ou il s'en réjouirait, ou peut-être les deux à la fois.
Exactement. Mais dans les deux cas, il essaierait d'entrer en contact avec eux, n'est-ce pas?
Oui.
Donc avec nous.
Donc avec nous.
Alors si ce n'est la fin du film, qui est complètement incroyable, typiquement hollywoodienne, ainsi qu'une volonté de mâcher le travail des spectateurs en simplifiant le plus possible l'intrigue et les rouages de l'espionnage, Mensonge d'État reste quand même une réussite grâce aux performances de DiCaprio, de Russell Crowe et de Mark Strong, mais aussi grâce à la mise en scène assez dynamique et aux images, comme toujours, superbes chez Ridley Scott. Donc voilà pour ce long survol de la filmographie du réalisateur. Donc en un peu plus de 30 ans de carrière, le bonhomme s'est taillé une solide réputation de faiseur d'images génial, ainsi que de talentueux spécialiste du divertissement, de la trempe d'un Steven Spielberg par exemple. Donc si sa filmographie compte quelques très bons films, elle est aussi émaillée de séries B plus ou moins réussies et de grosses productions qui ne valent surtout que pour leur qualité technique. Donc moins intégré au système hollywoodien que ne l'est son frangin, Tony Scott, qui, rappelons-le, a commencé sa carrière par plusieurs productions Bruckheimer, comme Top Gun, Le Flic de Beverly Hills 2, Ridley Scott a malgré tout tendance à sacrifier sur l'autel du conformisme, ce qui pourrait faire de ses films des œuvres vraiment importantes. Donc loin d'avoir la verve politique de son contemporain Oliver Stone, Ridley Scott évite autant que possible d'approfondir les sujets délicats qu'il porte à l'écran pour se concentrer sur le spectacle. Donc c'est dommage, puisque en utilisant son immense savoir-faire technique pour illustrer des scénarios un peu plus ambitieux, bien Ridley Scott serait assuré à chaque fois de donner naissance à des films vraiment forts. Mais bon, s'il préfère s'amuser à tourner les aventures de Robin des Bois, on ne peut pas non plus lui en vouloir.
Voilà, donc l'actualité de Ridley Scott, c'est effectivement le Robin des Bois qui avait été projeté à Cannes en avant-première et qui est maintenant dans les salles et à peu près toutes les salles, y compris en version originale sous-titrée au Diagonale.
Tout à fait.
Et bien évidemment, tu le conseilles dans cette version. Sinon, tous les autres films sont disponibles en DVD.
Voilà.
Quasiment.
Tous, je pense. Oui. Peut-être L'âme de fond, vous aurez du mal à trouver en DVD Zone 2, mais...
En tout cas, Ridley Scott, à peu près 80 ans, c'est ça que tu avais dit.
Oui,
c'est
ce que j'ai retenu. En 37, je crois, ou quelque chose.
C'est à peu près l'âge de Godard. Et donc, je vais vous parler de film socialisme de Godard. Alors, il est fini le temps où Jean-Luc Godard nous sortait des à bout de souffle, des pieds rôles fous, du mépris, des vivre sa vie, la passion, ou sauf qui peut, la vie. Ce temps-là est terminé, d'autant que film socialisme est annoncé comme son dernier long métrage. Un film présenté dans la section Un certain regard à Cannes et qui est sorti pendant le festival, soit le 19 mai. Un film attendu, comme son réalisateur, qu'on pensait voir sur la croisette pour faire face à certaines critiques. Et Godard est très fort pour les petites phrases, ce qui fait de lui un bon client lors de ses conférences de presse, mais il a prétexté un empêchement de type grec. Alors c'est Cathy Tanvier, ancienne championne de tennis, qui joue dans Film Socialisme, et sans doute celle qui joue le moins bien, au milieu d'autres non-comédiens, qui a dû faire face aux journalistes. Un ennui de type grec, à bien y réfléchir, il en est question dans Film Socialisme, avec un Godard qui va avec ses gros sabots, pratiquant l'analogie avec une famille qui se désunit, et un père qui demande à ses enfants « Pourquoi vous ne m'aimez pas ?» Le père, c'est sûrement la vieille Europe, les enfants, eux, la nouvelle génération, ils veulent se présenter à une élection en se passant du nom de famille. Mais avec ce film, tout en poésie, aphorisme et des bons, et mélancolique aussi, ne se laisse pas analyser par les mots, c'est proprement une œuvre audiovisuelle, du cinéma à tout point de vue, sauf que ça ne ressemble pas à grand-chose de commercial, de populaire. La narration est erratique, on passe du coq à l'âne, on se trouve mêlé à des intrigues dont on ne mesure pas toujours la portée, et Godard se fout pas mal qu'on comprenne complètement de quoi il s'agit d'ailleurs. Alors nous avons des morceaux de film, des morceaux de dialogue, de situation et puis des citations. La première partie du film se passe sur un paquebot. On est embarqué dans une croisière qui s'amuse, mais seulement en arrière-fond. Des touristes sont là, à jogger, à faire de la gym, à danser sur une musique saturée. Tout cela vu avec une image dégueulasse, digne des premières caméras vidéo. On peut se dire que là, Godard n'a fait aucun effort. Et puis, il y a ces personnages qui déambulent tels des fantômes dans ce fatras touristique et qui balancent leurs phrases. Alors, jamais très clairement, le son est souvent faible, un coup à gauche, un coup à droite, un coup étouffé par l'ambiance. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'il parle russe, allemand, espagnol, sans que ça soit forcément sous-titré. Mais il se dégage tout de même une force de cet assemblage, une force que Godard prend chez les autres, en littérature, en poésie et même au cinéma avec des passages d'Eisenstein. Alors sur ce bateau coupé du monde, on s'arrête dans certains ports, Italie, Grèce, Égypte, Espagne, pour entrevoir des civilisations, la guerre, la domination, la culture, avec des phrases autant de Périclès à Athènes qui inventa la démocratie et la tragédie qui enfantèrent la guerre civile. L'humanité est donc sombre, l'Europe se perd, l'Union se désagrège pour des histoires de gros sous, de la guerre d'Espagne, du conflit israélo-palestinien, de l'or égyptien, des fondateurs juifs d'Hollywood, d'Hitler et de Staline, de tout cela il est question dans Film Socialisme sur ce bateau usine à loisirs. Alors on va faire même un tour au fond de l'eau pour quelques plans sous-marins où des requins menacent des bancs de poissons affolés. Même les salauds sont sincères, entend-on plusieurs fois, les salauds de Sartre sûrement, ceux qui sont de mauvaise foi, qui s'obstinent dans leurs mensonges en toute bonne foi, obscurcis par leur conscience. Alors le contenu du film socialisme est philosophique, poétique, historique et artistique. La deuxième partie nous emmène donc près d'une famille de deux enfants, un petit gamin, une jeune fille, une mère garçon manqué et un père qui ne cesse de demander pourquoi vous ne m'aimez pas. Il tient un garage, un lieu de mécanique où l'analyse est de rigueur pour faire repartir la machine sans doute. Cette partie alors est beaucoup moins parcellaire, moins poétique, on comprend davantage les énoncés des personnages. Les enfants se portent candidats à une élection locale et ils ont un programme tout en lisant les illusions perdues de Balzac. Film socialisme s'achève abruptement avec un ultime carton dont je vous laisse la vision. Si vous voulez aller voir ce film, alors ça fait du bien quand ça s'arrête, on ne se le cache pas. Sans doute parce que ce Godard-là exige beaucoup plus qu'un Pierrot le fou ou qu'un mépris. Il fourmille de pistes qu'on a peine à décrypter quand déjà en arrive une autre. Un cinéma autant intellectuel que sensible. Alors intellectuel parce qu'il y a des références et une réflexion. Et sensible parce que c'est une œuvre audiovisuelle singulière où le son trouve sa relation à l'image et inversement. Alors c'est un immense tableau mouvant. Certains peuvent s'y plonger 1h40 en faisant l'effort nécessaire pour suivre le bateau, et puis d'autres quittent la salle au bout d'une demi-heure en se demandant pourquoi Godard a jeté le spectateur par-dessus bord. À noter la présence dans le casting, donc enfin la plupart des comédiens ne sont pas professionnels. Il y a Patti Smith qui chante une petite chanson. Il y a Alain Badiou qui est philosophe. Il y a Elias Sambar qui est un intellectuel. Et puis Bernard Maris, l'oncle Bernard de Charlie Hebdo, qui est face à une machine à sous, enfin voilà, et qui nous parle d'économie. Voilà, donc ce sont des petites scénettes, hein, donc enfin tout ce qui se passe en tout cas sur le bateau. Mais je recommande ce Godard qui t'a quitté la salle. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est un cinéma tellement atypique. Enfin, tu parles de. Enfin, quand on écoutait ton portrait
De Ridley Scott,
oui. Quand on écoutait ton portrait de Ridley Scott, on a l'impression effectivement qu'il a fait du bon, du pas bon, mais que globalement, enfin, c'était avant tout la lumière, avant tout, enfin, la recherche du spectacle, et ainsi de suite.
Ouais.
Alors que Godard est lui dans une recherche vraiment, enfin, de forme, enfin, depuis le début de son cinéma jusqu'à ce film-là, enfin, il est vraiment dans une recherche formelle, enfin, qui est. Enfin, oui. Il joue avec le cinéma, avec tout ce que peut permettre le cinéma.
Mais d'après ce que j'ai compris, de ce que tu nous dis du film, sa recherche n'est pas forcément récompensée, puisque il fait une image dégueulasse, un son qui part en vrille. Et...
Bah, disons que l'image dégueulasse, j'ai bien dit que c'était tout ce qu'était le côté loisir de ce bateau qui va sur la Méditerranée. Avec, effectivement, il plante sa caméra en discothèque, et puis là, ça fait boum boum, le son est complètement écrasé, les images bavent, enfin bon, il l'a fait exprès, hein, parce que normalement, avec les nouvelles caméras, même s'il n'y a pas trop de lumière, on s'en sort plutôt bien. Mais après, il cherche quand même une esthétique. Mais le son peut être un peu décontenançant, parce qu'effectivement, il s'amuse avec le fameux 5.1. Enfin, donc il y a du son après à droite, à gauche, parfois un peu plus étouffé, derrière, devant. Enfin, voilà, mais c'est une recherche. Et bon, après, ça m'a surpris. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème au niveau sonore dans cette salle? Enfin, voilà. Parce qu'il faut tendre l'oreille. Et ça, c'est peut-être le plus gros problème de ce film, c'est que c'est bien gentil. Enfin, de jouer avec le son comme ça, et puis de donner plusieurs sources. Alors soit c'est des poèmes, soit c'est un extrait de film, soit c'est bien gentil de jouer avec tout ça, mais encore faut-il que ce soit clair, enfin, parce que si à chaque fois on est perturbé en se disant mais non, j'ai pas compris ce mot, on perd ce qui vient après, enfin voilà.
Oui, mais surtout si l'équipement sonore de la salle où on va le voir n'est pas ça, terrible.
Mais ça je sais pas, mais j'ai lu quelques critiques et j'ai vu aucune remarque là-dessus, donc je pense que, et c'est vrai que Godard aime bien faire ça aussi, enfin, je l'ai vu dans ses précédents films, même si ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. C'est-à-dire qu'il aime bien faire en sorte que, par exemple, les personnages parlent, vont se dire quelque chose d'important, et puis qu'au bout d'un moment, il y a une grosse moto qui passe et qu'on n'entende pas ce qu'ils se disent. Enfin voilà, donc il s'amuse avec ça, et là, c'est poussé vraiment à l'extrême. Enfin voilà, c'est vrai que ça s'annonce presque comme son dernier film, parce qu'il pousse, sa maîtrise du cinéma, de son cinéma, à l'extrême. Voilà. Film socialisme, alors là autant dire que bon, c'est pas l'éclate au niveau de l'affluence, hein, c'est à 18h05 en séance unique et ça s'arrêtera mardi, vous avez jusqu'à mardi pour voir Film socialisme, après il faudra attendre le DVD.
Alors on va rester dans l'expérimentation formelle, dans la philosophie et tout ça pour vous parler un petit peu de la sortie en salle de Prince of Persia. Là, c'est vraiment l'antinomie entre toi, Kiarostami, Jean-Luc Godard,
c'est vrai.
Et moi, Ridley Scott et Prince of Persia. Donc voilà, aujourd'hui sort en salle ce film, adaptation à gros budget de la série de jeux vidéo produit par Ubisoft depuis 2003. Alors le film promet d'être une grosse aventure bien calibrée, avec des séquences d'action toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Les effets spéciaux qu'on peut découvrir dans la bande-annonce promettent de nous en mettre vraiment plein la vue. Et finalement, Jack Gyllenhaal, qui interprète le Prince of Persia, bien Jack bien bronzé, et bien on dirait presque un Irakien. Si, si. Donc pour ceux de ma génération, l'annonce d'une adaptation au cinéma du jeu Prince of Persia a quand même de quoi laisser dubitatif. Parce que comment est-ce qu'ils ont fait pour transposer sur grand écran cette somptueuse 2D qui a émerveillé notre enfance? Est-ce que le film durera seulement 60 minutes, le temps imparti au prince pour sauver la princesse dans le jeu? Est-ce qu'il y aura des potions rouges, bleues et vertes que le héros s'enfilera de temps en temps pour se régénérer? Et est-ce que la musique du générique sera à la hauteur? We'll be right back.
quel suspense.
Voilà, imaginez ça quand même, joué par le buzzer de l'ordinateur, parce que là il y a une carte son derrière, donc on a quand même un son assez propre, mais moi sur mon 486, c'était le buzzer de l'ordinateur, celui qui fait des bips, qui jouait cette petite musique, voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont découvert la série dans les années 90, comme ce fut mon cas, voilà à quoi on avait droit quand on tapait sur son clavier d'ordinateur à deux points, entrée, ça c'était pour accéder à la disquette 3 pouces et demi, puis Prince Exe entrée, ça c'était pour lancer le jeu. Donc voilà, c'était le bon temps. Maintenant, les jeux vidéo ne tiennent plus sur des disquettes de 1 méga 4. Et l'on doit s'endetter pour acheter une machine capable de faire tourner les derniers nés d'Ubisoft, Rockstar ou Activision. Mais bon, cette sortie en salle aura au moins eu le mérite de me donner une idée pour Cinérama, puisque ce n'est pas la première fois que le cinéma va chercher dans l'univers vidéoludique des idées de scénario. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit blind test afin de voir si vous arrivez à retrouver les films dont sont tirés les extraits que je vais vous passer. Alors, il s'agit bien sûr de films adaptés de jeux vidéo. Et vous pouvez jouer chez vous, si vous trouvez tous les titres et que vous envoyez vos réponses sur papier bible avec une photo en pied et un rib au trésorier de Divergence FM, eh bien, vous recevrez une copie pirate dédicacée par Bill Gates du premier Prince of Persia de 89 ou de Rick Dangerous 2, en fonction des stocks, de 1990, sur disquette 5 pouces 1 quart, par contre. Voilà, donc prêtez l'oreille et à vos stylos, on écoute un premier extrait.
Un de vous trois va déterminer l'issue de ce tournoi. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon.
Alors, est-ce que tu as reconnu ce rire mythique ?
Non.
Certains l'ont reconnu, je suis sûr, des fans de série B. C'était le rire de Christophe Lambert, bien sûr.
Ah.
Voilà, donc Christophe Lambert...
Je sais pas, moi j'ai que Fortress, mais c'était pas un jeu.
C'était pas un jeu vidéo, non. Okay. Christophe Lambert joue dans Mortal Kombat, Paul W.S. Anderson, film qui date de 1995, dans lequel Christophe Lambert joue Raiden, donc une sorte de demi-dieu qui maîtrise les éclairs, la foudre, tout ça. Donc un grand film et un autre grand film. On va écouter voilà, le deuxième extrait, essayer de trouver ce que c'est.
Soldat, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. On doit rentrer à la maison. On arrose Bison pour ses crimes. Et tous nos amis qui sont morts ici, tous ces sacrifices ont été inutiles. Mais nous, on doit rentrer à la maison. Pendant ce temps-là, les idéaux de paix, de liberté et de justice... On les passe à la trappe, mais nous, on rentre à la maison. Ben moi, à la maison, j'y rentre pas tout de suite. Je vais prendre mon bateau, je vais remonter le fleuve et je vais administrer à ce sale fumier de bison une déculottée si sévère que le prochain aspirant bison aura chaud aux fesses. Alors, qui veut rentrer à la maison ? Et qui veut venir avec moi ?
Ils ne rentreront donc pas à la maison.
Non.
Mais ça, je vois pas de quel jeu il peut s'agir.
Alors, c'est
j'y ai pas joué, en
l'immortel
tout cas.
Jean-Claude Van Damme qui assure le discours qu'on vient d'écouter.
Ah, c'est pas sa voix.
C'est sa voix française. Enfin, peut-être qu'il l'a tourné en anglais. Donc,
ouais,
avec
il
sa
l'a pas doublé.
Voix, il l'a pas doublé après. Il s'agissait donc de Street Fighter, encore une adaptation déjà d'un jeu de haut niveau, mais une adaptation de haut niveau. Un film de Steven de Souza qui date de 1994. Et donc Bison, c'est le méchant général Bison habillé tout en rouge. Donc on va passer à la suite tout de suite avec un film un peu plus récent.
L'homme que vous traquez est un tueur, un fantôme. Le bruit court qu'il travaille pour un groupe connu simplement comme l'Organisation. Tellement secrète que nul ne sait qu'elle existe. Elle ne se range du côté de personne, mais entretient des liens avec tous les gouvernements. Son unique objectif est de former et de conditionner des tueurs professionnels. Ces hommes sont sélectionnés à la naissance. Enfants abandonnés, orphelins, tous laissés pour compte et à disposition. On en fait des spécialistes de toutes les formes de combat. Et on les programme pour un seul objectif. Tuer. L'homme que vous traquez depuis 3 ans, inspecteur, est le meilleur d'entre eux.
Alors, qui est l'homme que vous traquez, inspecteur?
Je ne sais pas.
Oh là là. Eh bien, voilà, certains l'auront reconnu. Donc, un jeu où on incarne un tueur à gages avec un code-barre sur la nuque. Il s'agissait de Hitman, une production Europacorp, donc la boîte Besson. De Luc Besson. Film réalisé par Xavier Jans en 2007. Alors, on va passer à la suite avec un extrait encore plus difficile d'un film, peut-être le meilleur film de la sélection. Voilà, c'est un extrait qui est muet, mais voilà, avec l'ambiance sonore, vous pouvez trouver.
Alors, ça, je crois me souvenir, c'était un cauchemar ce jeu, j'avais tenté d'y jouer, ça a duré 30 secondes à chaque fois, j'ai arrêté, c'est Alien versus Predator ?
Non.
Splinter Cell alors ?
Non plus. Dommage, bien tenté.
Mais ça ressemble à Alien versus Predator, enfin le son, c'est ce que ça m'évoque en tout cas.
Alors c'est aussi un FPS, pour le peu que je connaisse Alien versus Predator, il s'agit donc du classique
Quake.
C'est celui qui a donné naissance à tous les Doom-like. Il s'agit de Doom, bien Doom. Sûr.
D'accord.
Donc ça, c'est un extrait de la séquence en FPS du film. Donc Doom est intéressant à mon avis parce que c'est le seul à utiliser vraiment les codes du jeu vidéo. Donc cette caméra subjective avec juste l'arme qui dépasse. Et donc il y a une séquence comme ça de presque 10 minutes, je crois, dans le film, qui est uniquement comme ça en FPS, voilà, first person shooter. Caméra subjective. Après, le film est un gros film d'action bourrin avec The Rock et Karl Urban. Mais bon, c'est un des films que, voilà, sur la sélection que j'ai préféré regarder. Ce qui n'est pas le cas du suivant dont je vous propose un petit extrait.
Je m'appelle Alice. Je travaillais pour Umbrella Corporation, la société commerciale la plus puissante et la plus grande au monde. J'étais chef de la sécurité dans un centre high-tech secret appelé La Ruche, un laboratoire souterrain géant spécialisé dans le développement d'armes bactériologiques expérimentales. Il y a eu un accident, le virus s'est échappé et tout le monde a été tué. Seulement l'ennui, c'est qu'ils l'ont ressuscité. Un virus T réanimait leur dépouille.
Alors, une idée ?
Je sais pas. Alien versus Predator.
Non, mais à croire que t'as joué qu'à un seul jeu.
Justement, j'y ai pas joué. Enfin, j'y ai joué 30 secondes. Il fallait allumer la lumière en même temps qu'on shootait dans les... Enfin, c'était compliqué, quoi.
Bon, là, il s'agissait d'un extrait de Resident Evil Apocalypse. Ouais. Donc, c'est la franchise qui a le plus de films pour l'instant. Franchise adaptée de jeux vidéo. Il y a le premier, Resident Evil. Resident Evil Apocalypse. Resident Evil Extinction. Réalisé par Russell Mulcahy il y a quelques années. Donc voilà, du très très bon, du très très lourd.
C'est celui-ci qui est avec Jovovich.
Avec Mila Jovovich, voilà. Tout à fait.
Et quand on lui demandait pourquoi elle avait tourné dans ce film, ça fait plaisir aux garçons, elle disait.
Voilà, mais ce qui n'est pas plus, enfin ce qui est plutôt louable de sa part. Contrairement à Angelina Jolie qui s'est compromis dans Lara Croft, je trouve que Mila Jovovich s'en sort plutôt bien là-dedans. On va écouter un tout dernier extrait en espérant que tu marques quand même un point, Vincent.
90% des fois, Chris, quand une femme se barre et qu'elle emmène sa fille dans un endroit pareil, c'est qu'elle est super fâchée contre son mari.
Vous adorez sortir les cadavres des placards, vous ?
Non. En ce qui concerne mes cadavres à moi, on leur roule dessus. Le charbon brûle toujours là-dessous. Le salon de coiffure pour hommes, là, c'était celui de mon père.
Votre père.
Il est mort. En novembre 1974, quand le feu s'est déclaré, ils ont essayé d'évacuer cette ville aussi vite que possible, mais c'était un enfer. Les gens mouraient ou disparaissaient. Ils ont même pas retrouvé la moitié des corps. C'était des gens bien, pour la plupart. Les autres ont eu ce qu'ils méritaient, si on peut dire.
Alors Vincent.
Non, là, au début j'ai pensé à Max Payne, après non, pas du tout.
Non, c'est vrai que j'aurais pu mettre un extrait de Max Payne ouais. aussi.
Mais non.
Alors il s'agit d'un... Bah, là pour le coup c'est peut-être le film adapté de jeu vidéo qui a l'esthétique la plus intéressante. C'est Silent Hill de Christophe Gans, voilà, qui adapte un jeu déjà à l'atmosphère très particulière, qui est vraiment réussi. Et Christophe Gans a réussi à trouver une sorte de, voilà, de façon de filmer cet univers, de bien rendre... à l'écran l'ambiance du jeu. Donc ça, c'était un film de 2005, Silent Hill. Donc je vous rappelle, si vous avez trouvé tous les titres, envoyez-nous les réponses.
Oui, bon, on les a données.
Et vous gagnerez un clavier de TO7.
Usagé. On passe, et pour terminer même cette émission Cinérama, eh bien, une nouvelle rubrique qu'on pourrait intituler, je ne sais pas, on casse du sucre sur les confrères, entre guillemets. On va parler des critiques du Figaro, Jean-Luc Vachtosen, Olivier Delcroix et Eric Neuhoff, donc, qui se sont illustrés dans une petite vidéo où, peu avant, l'annonce du palmarès de Cannes, ils se sont amusés à faire le top 5 des nanars. Alors, si j'en parle, c'est parce que j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un nouveau groupe qui s'était joint avec un apéro géant dans les locaux du journal Le Figaro lors de la sortie du film Oncle Bon Demi, donc, qui a reçu la Palme d'Or, puisque Le Figaro a détesté ce film comme ils ont détesté à peu près tout Cannes. Voilà. Donc, on va écouter comment ils parlent donc de leur top 5 avec Oncle Bon Demi de Happy Chapong Wirazeta Cool. On écoute.
La sommante agonie d'un paysan qui a le diabète et qui voit revenir tous les fantômes de son passé.
Assez pitoyable.
Le film est interminable, plein de visions inintéressantes.
De temps en temps, on a une sorte de fantôme en forme de singe avec des yeux rouges. Alors on pense à Chewbacca dans les Gardes des Étoiles.
Mais je vous recommande surtout, pour bien rigoler, une recette de poisson-chat qui se glisse dans une mare entre les cuisses d'une princesse défigurée. Là, je crois que Maïté et Julie Andrieux devraient s'en inspirer.
Alors voilà, donc c'est pas vraiment une critique de cinéma. Hein. Ils s'amusent avec une espèce de second degré comme ça, mais ça a été plutôt mal pris par certains internautes. On passe au quatrième, c'est Chasti Mo de Sergei Lozine.
Ce qu'il y a de bien dans ce film, c'est que malgré son titre, film socialisme, il n'y a ni socialisme ni film dedans.
Godard fait du Godard. Ni socialisme, ni film, il dit n'importe quoi.
Il se dit, où est, à bout de souffle, où est le petit soldat ?
Il dit n'importe quoi, il le répète, il invite des gens à le dire. C'est assez aussi assommant, mais paraît-il génial, nous on veut bien, mais enfin, voilà quoi.
Et je crois qu'on avait raison en mai 68 de le surnommer le plus con des Suisses pro-chinois.
Oui, donc il y a eu un petit souci, ça c'était le deuxième film socialisme de Godard. Alors j'espère qu'on va retrouver le quatrième, donc qui est Mon Bonheur.
Ça c'est un Ukrainien qui frappe fort, à la fois sur le camionneur qui est assommé et sur nous, qui sommes aussi complètement assommés au bout du film, on comprend rien.
Le film est aussi clair que... un temps de blizzard au fin fond de la toundra.
C'est une visite en règle des bas-fonds de l'enfer de la Russie.
On n'y comprend rien, mais ce qui est une constante à Cannes.
C'est sombre, tordu et finalement assez improductif.
C'est quelque chose où on a envie de faire du stop, mais pour sortir de la salle.
Alors celui qui est le plus virulent, hein, c'est Eric Neuhoff. Hein, on n'y comprend rien, mais c'est normal, on est à Cannes. Enfin, visiblement, lui, il n'en peut plus. Alors on passe au troisième de ce top 5 des nanars de Cannes 2010 selon l'équipe du Figaro. C'est Outrage, le film de Kitano.
Un film de Kitano, donc nul.
C'est un film tuant, répétitif, sans grand intérêt.
C'est violent, ça sert à rien, c'est du Tex Avery qui se prend au sérieux, voilà.
On se demande ce que fait Kitano là-dedans d'ailleurs. Il n'a peut-être plus rien à dire. On ne sait pas si c'est contre le Japon qui soi-disant se radicalise ou contre la pêche au thon rouge dans les eaux du Japon.
Donc là, bon, c'est assez étonnant. Hein. Enfin, quand on n'a pas vu le film, on se demande où il va chercher tout ça. En tout cas, c'est donc du Kitano, donc nul. C'est annulé, c'est toute une filmographie quand même. C'est Enfin, c'est assez étrange de la part d'un critique de cinéma, je trouve. Premier de ce top 5, c'est Chongqing Blues de Wang Xiaoshuai.
C'est le film auquel j'ai échappé, j'en suis assez content.
Chongqing Blues, il y a plus de blues que de Chongqing, bien que ce soit la ville apparemment la plus déprimante du pays. 20 millions d'habitants, Le Havre à côté est une riante métropole de la Riviera.
C'est totalement déprimant, il pleut tout le temps et qui plus est, le héros est une sorte de mandarin sous Trang-sen.
Mais c'est Cannes ça, c'est l'ennui putride et le n'importe quoi.
Voilà, il rajoute hein, à chaque fois des informations, c'est l'ennui putride, enfin... Voilà, quand ils sont arrivés au premier. Donc, Eric Neuhoff a fait un article hein, que vous pouvez lire d'ailleurs sur le site du Figaro où il s'explique un peu mieux sur ses choix. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai trouvé ça assez maladroit, notamment certaines phrases assassines comme celle de Kitano. Alors, la fine équipe termine le montage, parce que là, je l'ai découpé, termine le montage avec des rires. Bah oui, c'est très drôle.
Bah, se demander pourquoi ils ont un Cannes vraiment qui nous file leurs accrédits.
C'est clair, c'est voilà. Clair. Bon après ils ont apprécié quand même certains films parce que après j'ai lu quand même quelques articles pour voir quelle était la plume de chacun. Mais eux ce qu'ils aimaient c'était plutôt les films français. Ils auraient bien vu Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois notamment remporter la palme. Et il a eu le Grand Prix voilà qui est un peu le lot de consolation à Cannes. Nous sommes très en retard. T'as préparé des
du tout. Donc, débrouillez-vous pour trouver les événements qui se déroulent cette semaine sur Montpellier.
Il n'y a pas grand-chose, en tout cas. Voilà. Et sinon, vous pouvez aller sur Facebook hein, pour rejoindre ce groupe et aller à cet apéro donc, à la rédaction du Figaro pour fêter la sortie de Oncle Bonmi, donc en septembre, en France. Ainsi s'achève eh bien, Cinérama. À la fin du générique, on pourra écouter du Godard. Alors, pas le film Socialisme, mais qu'est-ce que j'ai choisi ? Je ne sais même plus ce que j'ai choisi. En tout cas, on va entendre Yves Montand avec une reprise de la fameuse scène du mépris. Voilà, c'est dans. Sauf, non, je ne sais plus dans quoi d'ailleurs. Ça se termine sur le chapeau de roue cette émission. Voilà. Sinon, on revient la semaine prochaine, j'imagine.
Voilà, à la semaine prochaine. Voilà, profitez bien de la semaine, allez voir des films, n'allez pas voir n'importe quoi. Et voilà, bonne journée.
Et sinon, merci à Technique. Nos deux stagiaires dont j'ai oublié les prénoms évidemment parce que rien n'est simple et on espère les retrouver la semaine prochaine donc pour Cinérama. Ciao.
Tu m'aimes ?
Oui, j'aime tes yeux, j'aime ta bouche, j'aime tes genoux, j'aime ton cul, j'aime tes cheveux, j'aime tes mains.
Alors tu m'aimes totalement.
Oui. Et toi ?
J'aime ton front. Et j'aime tes jambes. Et j'aime tes couilles. Et j'aime tes épaules. Et j'aime ta bouche.
Cinérama.
Tu m'aimes totalement, alors ?
Oui, totalement.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. Alors, si vous voulez...